président géorgien Mikhail Saakashvili. Je le dis bien, je sais, ouais, j'impressionne bravo. Avec mon Mikhail. Et dans votre livre, vous racontez les dernières élections que vous avez vécues de près et que Saakashvili a perdu au profit d'un gros plein de fric et de sa clique de losers sur lesquels vous n'auriez pas parié le moindre copec. Et en plus, Saakashvili avait plutôt pas mal redressé le pays et vous autopsiez après coup votre campagne. Et c'est absolument édifiant. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Obama, juste avant les élections, avait dit qu'on était un modèle que le monde devait copier, les modèles des réformes géorgiennes. La Banque mondiale venait de produire un livre qui expliquait qu'en gros, il y avait une voie pour combattre la corruption, c'était celle que nous avions empruntée. Mmh. Et donc, on arrive aux élections très sûrs de nous, en bonnes élites arrogantes. Et face à nous se dresse une coalition financée par un milliardaire géorgien qui s'appelle Ivanishvili. Et c'est une coalition rassemblant tout le spectre des réactions possibles dans la politique européenne, c'est-à-dire à la fois une église ultra conservatrice et un racisme latent et une homophobie universelle. Et donc, cette coalition fait campagne et nous traite d'homosexuels, de vouloir déviriliser la Géorgie, fait du Zemmour dans le texte. Mm-hmm. Et moi, bêtement, en tant que membre de ces élites européennes complètement déconnectées, je pense que ce type de discours va leur faire perdre des voix et que notre réélection est complètement assurée. Eh bien, nous avons pris une déculottée et le paradoxe, c'est que les endroits de Géorgie qui ont été le plus modernisés sont ceux qui ont le plus voté pour cette coalition réactionnaire. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que j'avais fait une erreur, moi, essentielle, et je suis en grande partie responsable de cette défaite, d'ailleurs, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que dans les sondages, il y avait des choses très inquiétantes, c'est-à-dire le rapport des gens aux idées. Et on était en tête des intentions de vote, le parti pro-gouvernemental progressiste, mais dans les idées, les Géorgiens exprimaient une aversion totale pour l'homosexualité, un désir de retour à la peine de mort. Et nous, on pensait qu'en gros, toutes ces choses étaient marginales, que les gens finalement allaient voter pour un programme économique. Et maintenant, les gens votent pour leurs idées. Et c'est pour ça que c'est très grave en France, par exemple. Quand on passe en 4 ans, de 2009 à 2014, en 5 ans, de 30% des gens qui sont pour la peine de mort à 50%. De 50% des gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrés à 69%. Bien sûr, ça ne se traduit pas tout de suite par un vote Front National. Mais quand les idées telles que celles-ci progressent, mécaniquement, les forces politiques qui incarnent ces idées vont progresser aussi. Et c'est un peu le problème de toutes les élites européennes que moi-même j'ai ressenti et dont j'étais moi-même coupable, c'est-à-dire une forme de distance vis-à-vis des idées. Et on se dit, oui, mais finalement, tout ça, c'est que des outils au service de la communication. Ben non, les gens, ils votent en fonction de ce qu'ils croient. Mm-hmm. Et quand ils croient des choses qui sont dangereuses, ils votent de manière dangereuse, je suis désolé de le dire.
Et vous n'aviez pas assez parlé à leur cœur et à leur âme.
Mais vous savez, nous, on a fait une campagne où le slogan, c'était « plus de bénéfices pour les citoyens ». Et eux, ils ont appelé leur parti, leur coalition, le rêve géorgien. Et ils promettaient, dans leur slogan principal, la restauration de l'identité. Et voilà, donc après, tous les communicants ou journalistes qui passaient nous disaient quand même, vraiment, vous êtes vraiment très, très bons communicants. Hein. Plus de bénéfices pour les citoyens, ça marchera très bien, alors que la restauration de l'identité, personne ne sait ce que c'est. Mais non, nous, on s'adressait aux gens comme à des épiciers. Et l'extrême droite, c'est tout le paradoxe, s'adressait aux gens comme à des gens capables d'émotions et d'idées. Et j'ai croisé à Kiev le patron roumain d'une boîte de communication qui assure la com online, sur les réseaux sociaux en particulier, du Front National.
En France, oui.
Et je lui ai demandé, parce que Marine Le Pen n'est pas contre toutes les délocalisations, il y en a certaines qui sont bien, et je lui ai demandé, mais comment ils faisaient pour avoir ce succès? Parce que vous savez, le Front National, c'est le premier parti de France sur Internet, c'est sur Facebook et sur Twitter. Et donc, comment ils faisaient? Quelles étaient ces techniques? Il dit, mais en fait, on ne fait absolument rien. C'est du bluff total. Simplement, ça marche tout seul pour une raison très simple. C'est que l'extrême droite, partout en Europe, parce qu'ils travaillent aussi pour d'autres mouvements d'extrême droite en Europe, propose des idées quand les partis dits de gouvernement proposent du PQ. Mm-hmm. Et à la fin, les gens vont voter pour des idées ou adhérer à des idées, en particulier sur Internet. Et même si le PQ est bien impacté et soldé, eh ben, ils le laisseront tomber. Et donc, il est temps de remplacer le PQ par des idées.
Et parmi les conclusions que vous avez tirées de cette défaite électorale, c'est qu'il ne fallait pas prendre de haut les réactionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut leur offrir une tribune dans les médias et que donc, le mea culpa de Laurent Ruquier, qui a semblé justifié, mais un peu tardif à plein de gens, n'a pas lieu d'être?
Ah non, je pense l'inverse. C'est-à-dire que c'est le moment où Laurent Ruquier laisse parler Zemmour pendant 5 ans et déblatérer ses horreurs, c'est ce moment-là où Laurent Ruquier prend de haut les réactionnaires. Il pense que c'est bon pour l'audience, que ça va marcher. En fait, là, il est le symbole de l'élite post-politique médiatique française, mais européenne en général. C'est-à-dire qu'il ne croit pas vraiment dans les idées. Donc finalement, que Zemmour insulte les femmes, insulte les Arabes, insulte les Juifs cosmopolites, c'est pas si grave. Là, il a une gueule de bois, il voit que Zemmour finalement devient un penseur dominant en France et il se sent responsable. Mais prendre les réactionnaires au sérieux, ça ne veut pas dire leur ouvrir un boulevard et les inviter dans les médias, ce qui est d'ailleurs déjà le cas. Le Front National est partout en France dans les médias. Mais c'est surtout prendre au sérieux ce qu'ils racontent et comprendre d'où ça vient et quelles sont les conséquences de ce type de discours. C'est-à-dire, en gros, ne plus évoluer dans une forme d'apesanteur qui serait que, bah voilà, on est là, on est libre, on est autour d'une table, on dîne ensemble, c'est merveilleux et ça restera toujours pareil. Ben non, ça restera pas toujours pareil si on prend pas au sérieux les gens qui ne veulent pas dîner à cette table du cosmopolitisme.
À la fin de votre livre, Raphaël Glucksmann, et on va se laisser là-dessus, dans la partie manuel de lutte, hein, pratico-pratique, une boîte à outils politique et médiatique, vous écrivez une phrase que je trouve très interpellante, c'est « Le règne de la distance et de la dérision touche à sa fin ». La distance et la dérision, est-ce que c'est pas un peu tout notre modèle médiatique actuel, ou en tout cas tout notre idéal médiatique actuel? En Belgique, on nous parle toujours de l'exemple du petit journal comme étant ce qu'il faut faire. Le règne de la distance et de la dérision touche à sa fin, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a besoin un moment, quand on vit un moment de bascule historique, quand on vit un moment tragique, profondément tragique, qui est la crise politique, sociale, mentale dans laquelle l'Europe s'enfonce, il y a besoin d'un brin de respect et de premier degré. C'est-à-dire que c'est très facile de rire entre nous, parce qu'on vit dans un monde privilégié, et en même temps, les gens souffrent. Et face à notre dérision permanente, il y a des gens qui arrivent et qui sont tout à fait du premier degré, et qui sont tout à fait en empathie avec la souffrance des gens, et ce sont des gens d'extrême droite. Alors si on veut continuer à se marrer entre nous, jusqu'au moment où Marine Le Pen sera présidente et où l'Union européenne se sera effondrée, bah, c'est notre choix. Mais moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il serait peut-être temps de se réveiller et de passer à une autre forme de discours.
Merci beaucoup Raphaël Glucksmann. Je rappelle les coordonnées de votre livre « Génération gueule de bois, manuel de lutte contre les réacs ». C'est chez Alary Édition et c'est un livre que je conseille plus que chaudement et plus que vivement à nos auditeurs. C'est tout à fait galvanisant et ragaillardissant. Merci beaucoup pour tout ça.
Merci.
Jusqu'à 11h, entrez sans frapper sur La Première.
La Première.